On va commencer peut-être par, je pense, définir plus précisément ce qu'on appelle la transformation digitale, puisque ce n'est pas forcément une notion qui est extrêmement claire dans l'esprit des gens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Peut-être, chacun votre tour. Pour vous, qu'est-ce que c'est foncièrement la transformation digitale dans le monde des médias?
Ok, il n'y a pas que des avantages alors finalement à être...
N'est-ce pas?
Je commence. Alors, transformation digitale, c'est effectivement une très vaste question. Je vais peut-être la resserrer un peu plus sur le focus de l'information et du journalisme qui est ce qui m'intéresse plus particulièrement. Ouais, déjà, je crois que c'est... Ce que je dirais simplement, c'est que ce n'est pas non plus quelque chose de complètement nouveau. Enfin, Internet, le web, le numérique, ça fait déjà un certain nombre d'années que ça existe. Peut-être vous disiez qu'est-ce que ça n'est pas. Moi, je dirais ce que ça n'est pas, c'est une simple transformation technique et c'est peut-être parfois le prisme qu'on a de dire finalement il y a des nouvelles technologies, des nouveaux outils, etc. qui apparaissent et puis qui transforment les manières de faire ou autre. Il me semble plus important de placer le focus en fait sur une dimension plus sociétale des pratiques, d'évolution des pratiques. Et il me semble que ce qui est vraiment très important dans la transformation digitale, c'est vraiment qu'aujourd'hui, pour le domaine, par exemple, du journalisme et de l'information, on ne s'informe plus du tout, j'imagine qu'on y reviendra, de la même manière qu'on s'informait il y a quelques années. Et donc, quand on porte ce focus sur les pratiques professionnelles, les pratiques des journalistes, etc., ça permet peut-être de relativiser un petit peu le poids de la technique et puis d'aborder ça par un autre prisme. Puis peut-être juste le deuxième point qui me frappe dans la transformation digitale, c'est également la manière dont on observe aujourd'hui une explosion du nombre des acteurs de cette transformation. Il y a quelques années, on avait un secteur médiatique qui était assez bien balisé, quelques médias traditionnels, radio, télé, presse écrite, etc. Et puis le numérique a vraiment amené une diversification énorme de ces acteurs. Capo est là, donc on pourra évidemment en parler. Mais aussi des acteurs qui sont complètement nouveaux, comme les plateformes, par exemple, qui pèsent aussi dans la diffusion de l'information. Donc je dirais peut-être voilà, un changement très profond dans les pratiques, par le prisme de la technique, et puis dans ces nouveaux acteurs aussi qui apparaissent.
En fait, je fais un peu le parallèle avec ce qu'on nous dit souvent en cours, c'est qu'il y a une vraie différence, et c'est ce que souvent qui n'est pas bien comprise, entre la digitalisation et la transformation digitale. Où la digitalisation va plus être justement un développement de la technique qui va permettre le développement d'Internet des objets, ce genre de choses, alors que la TD, c'est plus l'effet de cette digitalisation sur la société, la vie humaine, etc. Est-ce que vous êtes d'accord également avec... cette définition, vous voyez ça différemment?
Pour moi, c'est un peu théorique, c'est intéressant, mais c'est un débat super théorique. Nous, ce qui change pas, il y a beaucoup de choses qui changent, mais les choses qui changent pas. Et un confrère m'avait dit, à la fin, un bon journaliste, c'est un bon journaliste. Et je trouvais ça, c'est une monstre tautologie, hein, c'est pas très intéressant d'un point de vue sémantique, mais c'est vrai que c'est la réalité, c'est-à-dire que moi, je suis rentré dans ce métier, j'ai 48 ans, je suis rentré dans ce métier, il n'y avait pas d'ordinateur, et je vais en sortir, il n'y aura sûrement plus de papier. J'exagère un peu, peut-être, que moi, je suis rédacteur en chef papier du temps, donc autant vous dire que j'ai envie que ça dure, cette affaire. Mais pour vous dire qu'un bon journaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'enquêter, de recouper des faits, de faire de l'analyse, éventuellement de faire de l'opinion, de faire une bonne chronique, quelque part, s'il l'écrit sur un papier, s'il en fait un blog, s'il fait une vidéo, s'il fait du web social... Finalement, ce sont que les moyens qui changent. On doit réinventer les narrations, mais à la fin, on fait toujours le même job. Donc moi, je suis très optimiste sur le métier de journaliste en me disant, ben voilà, il y a une explosion d'informations et il faut des professionnels pour traiter cette information. On le voit avec ce qui s'est passé, avec ce qui se passe maintenant avec Facebook, les réseaux sociaux, est quand même une énorme question d'enjeu démocratique. Hein. Il faut utiliser les grands mots sur l'importance de ce que c'est qu'une nouvelle, de comment la traiter, de comment traiter son audience aussi. Et donc, il y aura toujours besoin de journalistes. Et après, simplement, c'est les narrations qui changent. Donc, nous, on a des journalistes maintenant qui font plein d'autres choses différentes de ce qu'ils faisaient il y a quelques années. Et sincèrement, quand vous aimez votre métier, ben, c'est plutôt une chance. Hein. Simplement écrire, quelque part, c'est super limitant. Mais faire une vidéo, faire un podcast et ainsi de suite, c'est vraiment le champ des possibles est totalement ouvert.
L'opportunité de faire justement de nouvelles choses, en fait. Donc. Et alors, est-ce que c'est un petit peu le même effet dans la presse écrite que dans la presse parlée ? Ou audiovisuelle, on va dire ? Peut-être mieux.
Bien sûr, c'est toujours le même mécanisme, mais la transformation digitale, moi je la vois en deux parties. La première partie, c'est le canal qui change. Donc on se rend compte, ça s'est déjà dépassé aujourd'hui, mais on se rend compte qu'on passe pas par les mêmes canaux pour toucher le même public. Et puis dans un second temps, on se rend compte qu'il ne faut pas mettre le même contenu dans ces nouveaux canaux pour que ça fonctionne. Et tout à coup, on transforme le contenu de manière digitale. Et puis là, il y a à la fois des opportunités incroyables et des dangers monstrueux et des erreurs qui sont encore plus grandes. Et si maintenant on a totalement assumé la transformation digitale du canal, on n'a vraiment pas assumé, compris et domestiqué la transformation digitale du contenu. Aujourd'hui, les contenus digitaux qui fonctionnent, on a l'impression que ça change toutes les 3 semaines. Il y a des beaux succès, Kapao est un bon exemple de format qui fonctionne, mais on peut se demander même si ce format-là, qui fonctionnait extrêmement bien il y a une année, fonctionne toujours autant, ou s'il n'y a pas une espèce de lassitude maintenant que tous les médias font du Kapao, du nouveau, de la vidéo carrée sous-titrée. Donc là-dedans, on est tous des adolescents, des apprentis. Et les médias les plus expérimentés font des erreurs monstrueuses en termes de contenu. Tout à coup, on ne sait plus comment faire. Donc il faut vraiment différencier les deux. Sur les canaux, aujourd'hui, c'est digitalisé, c'est plus ou moins maîtrisé. Sur le contenu, on est tous des incompétents.
Tous alors ? Ou pas vous ?
Non, je pense qu'il y a, comme il a dit, on est tous incompétents parce que c'est récent. Donc on est en train de créer les compétences par rapport à comment on traite l'information aujourd'hui, parce que les canaux ont dicté en fait qu'il fallait changer notre manière de traiter l'information, parce que l'audience avait envie de la consommer différemment. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine incompétence de par à quel point c'est nouveau. Mais ça, c'est dans l'histoire des médias. Je veux dire, quand la télévision est arrivée, il y avait ce même problème où on disait, mais ça, c'est pas vraiment de l'information, c'est de basse qualité, on traite pas les sujets comme ça. Et puis, il fallait que ça mûrisse pour que vraiment ça devienne ce que c'est aujourd'hui, où maintenant on regarde le digital et on dit, ah, mais c'est pas du tout la même qualité que la télé. Et donc, il y a toujours ça au début, ça prend du temps. Mais pour parler de la digitalisation, c'est vrai que ça fait quelques années qu'elle est là. Pour moi, il y a deux gros aspects. Le premier, c'est vraiment dans le côté technique de ce que ça a apporté, donc de faire vraiment baisser les coûts de la production de contenu, et ça va de l'achat de caméras au logiciel de montage, mais de toute la chaîne de production de contenu, qui a permis à un acteur, par exemple comme le nôtre, d'arriver à se lancer avec très peu de moyens, avec vraiment une idée et une envie, qu'il y a 10 ans, si on aurait voulu lancer un média, si on aurait voulu lancer une chaîne télé, ça aurait été un budget légèrement différent que de lancer Kappa aujourd'hui. Et puis le deuxième, c'est le rapport à la consommation de ce contenu. Donc comment il est diffusé, on a touché sur ça. Et puis là aussi, c'est très nouveau. Ces canaux sont là, les gens consomment le contenu à travers ces canaux. Mais où est-ce que ça sera demain ? On voit que la transformation se change de jour en jour, de jour en jour. Et c'est là, à mon avis, où il faut qu'on suive, pas les tendances, mais qu'on suive notre audience et le cœur de métier. Comme M. Stéphane Benoît de Godet disait, c'est si on est journaliste, le métier ne change pas. On va raconter des sujets à une audience. Par contre, ce qu'il faudra qu'on soit au courant, c'est comment est-ce qu'on va changer nos modes de fonctionnement à cause de la digitalisation.
Comment le raconter, quoi, en fait.
Exactement. Tout simplement.
Donc, transformation, finalement, sur un peu tous les aspects dans votre métier, sauf donc sur effectivement le contenu, sur ce dont on parle. Et quand même, notamment aussi, d'un point de vue économique, on va dire, business model. On en parlait quand on s'est rencontré, Monsieur Benoît Godet. Vous m'avez dit une phrase qui m'avait assez marqué. Le monde des médias recherche son business model de demain. Et donc, il est vraiment question de se réinventer au final.
Disons que vu qu'on ne sait pas ce dont va être fait le futur, il faut qu'on invente le futur. Et puis sincèrement, moi je me tourne vers vous, c'est-à-dire qu'on est à peu près persuadé que ce n'est pas les gens de médias qui vont inventer le futur, c'est-à-dire que c'est les gens de l'extérieur qui vont inventer. C'est sûrement aussi vous, les étudiants maintenant, les gens qui étaient en train de se former, qui allaient trouver... Moi je ne crois pas qu'il va y avoir un Graal, hein, on ne va pas trouver un truc qui sera applicable à tous les médias. Ça je crois qu'il y a encore trop de confrères qui se disent « Ah, on va trouver un truc qui va remplacer la pub, ça va être formidable ». Ça je ne pense pas, je pense qu'on va trouver plein de choses. Par contre, je suis à peu près sûr que ce n'est pas les gens qui, comme nous, sommes le nez dans le guidon, et réfléchissons tout le temps à notre manière de faire et ainsi de suite. Et ça, c'est souvent des questions éditoriales, par exemple, qui sont très intéressantes. Mais sur la transformation du business et de penser de manière complètement décadrée, ça, c'est clair que ça va venir soit d'un petit gars ou d'une nana qui sort d'HEC ou de quelqu'un de l'EPFL, mais c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs pour moi. Et c'est pas simplement, je ne dis pas ça là parce que je suis dans cette salle maintenant et j'y crois beaucoup, mais franchement, dans les différentes rédactions que j'ai connues, on a connu beaucoup de transformations du côté éditorial, on arrivait à beaucoup changer les journalistes, à leur faire faire ce qu'ils devaient faire de mieux sur des nouveaux canaux. Par contre, avec les équipes commerciales et les équipes de business, c'est beaucoup plus difficile. imaginez quand vous êtes un vendeur de pub, ça fait 20 ou 30 ans que vous vendez des millimètres, c'est vraiment ça, hein, des pages de pub, et que tout à coup vous devez faire un plan média avec peut-être un partenariat avec Kappa ou avec du sponsoring d'une boîte, avec du reach, du SEO, du retargeting, les gars ils sont complètement paumés quoi. Mm-hmm. Et là on a vraiment une génération de vendeurs. Nous ce qui nous manque actuellement c'est pas des bons journalistes, c'est des bons commerçants. Vraiment des gens qui repensent le business et qui voient ça différemment. Et nous, on a l'impression de plus avoir des abonnés, mais des membres d'une communauté qui disent le temps. On fait plein d'activités, hein. On fait des concerts de rock dans la newsroom, dans la rédaction. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs, ça vous intéresse. On a fait des cours de philo pour les enfants. On a fait du vélo dans le laveau avec des cadres qui avaient tous des vélos à 15 000 balles et ainsi de suite. Mais par contre, notre équipe commerciale, c'est pas avant de ça. On leur dit, vous voyez, notre public, c'est ça. Et pour eux, on peut faire des trucs super, on peut les amener à des trucs super. Et vous, vous devez vendre du ticketing ou trouver une manière d'être membre de ce club. Et ben, ils n'ont pas trouvé pour l'instant.
D'accord. Et alors, on en parlait également, Jonas, les particularités du marché suisse. En fait, le business model actuel, il ressemble à quoi, selon vous ?
Bon, on entend souvent des médias suisses, y compris parfois de services publics, qui vont chercher des grands modèles. On dit, ah, tiens, nous, alors on va redessiner tel ou tel journal selon le New York Times. Mmh. Et c'est particulier. Et c'est oublier, en fait, comment fonctionne vraiment la Suisse, surtout d'un point de vue commercial. Aujourd'hui, il y a une industrie qui s'en sort très bien, c'est les petites radios locales. Pourquoi les petites radios locales s'en sortent très bien ? C'est qu'elles n'ont jamais voulu faire comme le New York Times et elles continuent de bosser avec le garagiste du coin. Et le garagiste du coin, certes, il va sur Facebook, mais il cherche toujours à vendre des bagnoles avec une publicité à la con premier degré qui fonctionne très bien sur les radios locales. Et en fait, le fait qu'elle n'ait pas totalement digitalisé leur offre, qu'elle n'ait pas totalement pris le tournant du numérique, aujourd'hui, ça leur permet de sauvegarder leur business model. Donc, certes, Facebook, par exemple, sur la publicité hyper locale, a fait des dégâts, mais aujourd'hui, les radios locales continuent de fonctionner. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans un marché déjà hyper conservateur, qu'en général, surtout sur des petites entreprises, il n'y a pas un responsable marketing qui sort d'HEC, mais c'est le carrossier qui, en plus de ça, fait son marketing et que ça fonctionne très bien, et qu'on aurait aussi tort à vouloir surjouer la digitalisation, et surtout d'un point de vue commercial. Donc, c'est pour ça que j'entends toujours avec beaucoup de passion ces directeurs de médias qui citent Elon Musk, mais on a quand même un marché qui est particulier, et puis un marché de la publicité qui est parfois beaucoup plus premier degré et beaucoup plus conservateur que ce qu'on veut bien imaginer.
Que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, que ce soit d'Europe ou d'ailleurs. Donc.
Ouais. Aussi, parce que comme on a des structures plus petites, on a parfois des gens moins professionnels ou moins formés qui font les investissements publicitaires.
Très bien. Et donc, Kappa, c'est quoi votre business model finalement parce que vous, finalement, vous faites beaucoup de vidéos sur Facebook, enfin, vous faites d'ailleurs quasiment que ça, je pense, c'est ça. Et comment ça marche? Comment vous rémunérez? Est-ce que vous pensez que c'est un modèle durable? Est-ce que vous direz que c'est un modèle de transition? Ou est-ce que vous avez vraiment trouvé une dynamique qui fonctionne?
Donc nous, on part toujours de notre audience. Comme tu dis très justement, certains médias n'ont pas besoin de complètement se réinventer parce que peut-être que leur audience, elle ne s'est pas complètement réinventée de la manière qu'elle consomme l'information. Nous, notre audience, c'est une audience qui est un craint de vraiment tirer vers ce changement et cette transformation digitale dans laquelle beaucoup de médias sont en train de tomber quand en fait, ils ne devraient peut-être pas.
Ça.
Exactement. Mmh. Et nous, ce qu'on a remarqué avec notre audience, c'est qu'elle avait, et ça c'est juste factuel, un réel dégoût de la publicité premier degré classique. Elle en a juste plus envie. Donc, nous, on a un challenge devant nous, c'est de se dire, OK, cette audience qui est nous, on n'a plus envie qu'on vienne nous dire la pub fuste, qu'on va acheter notre prochaine radio à 9,99 et puis acheter notre steak chez Lidl. Et on a envie de construire des relations qui sont différentes avec les annonceurs. Les annonceurs, aujourd'hui, ils n'ont aucune idée comment communiquer avec notre génération. Et donc, c'est à nous aussi, en tant que médias, de faire le pont entre la notre audience, et puis les annonceurs. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est ne venez pas nous parler directement de ce que vous nous vendez, mais venez nous parler d'un univers dans lequel vous voulez évoluer, et puis nous, on décidera si on croche avec ça ou pas. Et donc nous, ce qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est qu'un format qui marche pas mal pour réussir à véhiculer ce message, c'est ce qu'on appelle le branded content, native advertising, ça a pas mal de différents noms, mais c'est où en fait, nous, éditorialement, on crée des séries thématisées autour de sujet que l'on trouve clé et que l'on traite, et puis les annonceurs se disent bah, nous on aimerait s'associer avec cette image de marque là, et donc c'est une forme de publicité, mais ce n'est pas une publicité directe. Ça c'est ce qui marche aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois ce sera différent, dans 12 mois certainement ce sera différent, et comme on l'a dit, il n'y aura pas un seul business model, et donc c'est à nous en tant qu'entreprise d'être très agile, très réactif, mais toujours de partir C'est pas ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est comment est-ce que notre audience réagit à ce qui est en train de se passer dans le monde, puis à nous de naviguer par rapport à ça.
Parce que vous disiez par exemple, il y a un an dans une interview, que c'était plus facile à l'heure actuelle de créer son média que de réinventer son média, finalement, que de réinventer quelque chose d'existant qu'on qualifierait de traditionnel. Et vous êtes donc toujours en phase avec ça ?
Ouais, et pour tellement de différentes raisons, je veux dire, il y a des énormes avantages de partir d'un média qui a une très forte réputation et un nom qui résonne avec une audience, mais il y a aussi tout ce qu'on sait, des politiques internes, le fait que les gens n'ont pas envie de faire la transformation. C'est très facile de dire « je vais transformer ma rédaction », mais quand on a 60 personnes sous soi qui n'ont peut-être pas envie de changer, c'est quand même, ça reste un business de personnes.
Bah, c'est toute la question du facteur humain. Oui.
Exactement, et le facteur humain est absolument énorme. Et pour nous, c'était de se dire, aujourd'hui, notre audience, elle fait quoi ? Elle consomme principalement l'information sur les téléphones mobiles, dans les réseaux sociaux et sous les formats vidéo. Donc nous, on a eu feuille blanche et on s'est dit, on se lance comme ça. Mais si notre audience, elle était à feuilleter des magazines, on aurait probablement lancé un magazine. Mm-hmm. Et puis si dans 12 mois, elle n'est plus sur Facebook, on ne sera plus sur Facebook. Pour nous, c'est une question de suivre l'audience là où elle va et puis de la servir avec la meilleure information qu'on peut.
Et alors, dans les écoles de journalisme dont vous faites partie, qu'est-ce que vous enseignez là-dessus sur les business models ? Vous avez des cours spécifiques ou j'imagine vous avez des conseils du moins pour vos étudiants ?
Oui, alors la particularité de la GM déjà, c'est qu'elle est dans une faculté de sciences économiques, mm-hmm. ce qui n'est pas le cas nécessairement de toutes les écoles de journalisme. Donc voilà, ça nous engage un petit peu effectivement sur ces questions-là. Je dis ça va pas de soi parce qu'en fait, Stéphane Benoît-Godel disait un petit peu tout à l'heure, il y a un peu toujours cette image du mur plus ou moins symbolique entre la rédaction, les journalistes et puis tout ce qui va être service commercial, marketing, voilà. Et c'est pas toujours évident d'expliquer effectivement à des journalistes ou à des futurs journalistes que leur métier, ça va pas être juste de d'écrire de belles histoires, d'enquêter, de sortir des scoops, d'informer, etc. Mais c'est aussi à un moment donné que ce qu'ils produisent se soit vendu et que d'une certaine manière, c'est un produit. Alors ça, c'est pas un produit comme les autres, mais voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire entrer dans les esprits, donc on y travaille beaucoup. Évidemment, tous les exemples que vous avez cités là nous servent beaucoup. On a fait venir Capao, enfin moi je les ai fait venir dans un cours l'année dernière pour justement, il y a eu des discussions assez passionnantes et parfois assez directes avec nos étudiants, mais je trouve que c'est important de les sensibiliser à ça. Alors ça se fait à travers des cours qui peuvent être des cours assez classiques sur les business models, etc. Puis on essaie de les sensibiliser aussi à la question de l'auto-entrepreneuriat. Alors ça signifie pas nécessairement demain aller créer son propre média, quoique, voilà.
Ça se fait apparemment.
Voilà, ça se fait exactement. Et on en a quelques-uns qui ont ce souhait-là. Mais ça peut être aussi, ça peut les aider simplement à l'intérieur d'un média, quand ils vont avoir peut-être l'idée d'un projet, de savoir comment construire, comment l'argumenter, comment penser sa viabilité, son éventuelle rentabilité. Enfin, voilà, c'est toutes des choses qu'on essaye. Alors ça, c'est un cours qui est facultatif, donc pour ceux qui ont vraiment envie plutôt de se spécialiser là-dedans. Mais on essaye de les accompagner dans cette démarche-là. Mm-hmm. Donc on fait bouger un tout petit peu les frontières et de toute façon, le métier de journaliste reste évidemment un métier sur ses fondamentaux, je suis complètement d'accord. Puis il y a aussi, sur certaines facettes, ça évolue un petit peu. On essaye d'accompagner nos étudiants aussi dans cette démarche-là.
D'accord. Et alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, le financement par la publicité, est-ce que c'est quelque chose qui est voué à disparaître selon vous, ou c'est toujours quelque chose sur lequel vous reposez beaucoup ? Je sais qu'on en avait parlé avec l'AGFI qui nous disait que la publicité représentait environ 30% de leurs revenus, ce qui était peut-être un peu moins que ce que la majorité des gens, par exemple, pourraient penser. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, est voué à diminuer, à augmenter ?
Quand j'ai travaillé autant au début du journal, j'y étais entre 98 et 2003, après je suis parti à Bilan et je suis revenu. Quand le temps a commencé il y a 20 ans, les revenus publicitaires, c'est 80% des revenus. Et on est à 50% maintenant. Donc évidemment, c'est que les revenus publicitaires se sont effondrés, c'est pas que les revenus lecteurs ont explosé. Donc il y a une baisse tendancielle en fait dans les imprimés, là je parle pas d'internet, mais vraiment les imprimés, depuis l'an 2000 en fait ça se casse la figure. Et donc ça, c'est la réalité, c'est que ça se casse la figure et ça va continuer à se casser la figure. La mauvaise nouvelle, c'est que la pub qui va dans le web est très peu rémunératrice. En gros, une page de pub dans Le Temps, c'est 13 000 francs, je crois. Une campagne de banner sur le site du Temps, c'est beaucoup moins parce que le marché est très ouvert. Il y a un système de programmatique, ce qu'on appelle donc des robots qui sous-enchérissent. Donc finalement, vous ne gagnez pas du tout votre vie sur le web si vous vivez que de la publicité. Après, bah, c'est le dilemme de l'innovateur. C'est-à-dire que nous, on est une rédaction qu'on va qualifier plutôt d'innovante pour un média traditionnel. Mais c'est vrai que 80% de nos revenus viennent du print actuellement. 80% de nos revenus viennent du print. Print, ça veut dire à la fois la pub et à la fois les lecteurs. Donc on a une incitation qui est forte d'innover, d'aller vers des nouveaux médias, des nouvelles narrations, mais pour l'instant, on n'est pas payé pour ça. Donc on sait qu'on doit le faire, hein, on sait que ça peut péter d'un jour à l'autre. On connaît l'histoire de Kodak et du numérique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, vous dites Kodak invente le numérique, regarde le numérique, dit, oh, c'est pas très intéressant, de toute façon, on fait tellement de blé. Bon, nous, on fait pas tellement de blé. Mais on peut dire, voilà, nous, on fait 80% sur le print, on est à l'aise. Non, on n'est pas à l'aise, on sait que ça se casse la figure. Donc il faut absolument se réveiller. La publicité, ça va rester. Évidemment, il y a toujours des boîtes qui ont envie de se faire connaître. Comme le disait Geoffroy, nous aussi, on fait des systèmes aussi de sponsoring, de branding content. C'est moins élaboré, peut-être, que dans un média un pure player, mais c'est vrai qu'on le fait aussi. Et la publicité classique va continuer à rester. Les marques de luxe, elles viennent seulement de se mettre aux influenceurs, hein, typiquement. C'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, mais les grosses marques d'horlogerie suisses, typiquement, elles viennent seulement maintenant de se mettre à ça, et elles continuent encore massivement à être des investisseurs dans les titres de prestige. Donc il faut continuer à jouer avec ça, il ne faut surtout pas les dissuader de continuer à annoncer, mais par contre, il faut leur proposer des solutions innovantes pour se faire connaître.
Est-ce que c'est un petit peu la même chose dans l'audiovisuel, selon vous ? Est-ce que, parce qu'il y a peut-être moins, en fait, enfin, pardon, il y a peut-être plus l'impact négatif de la publicité dans l'audiovisuel. On a souvent l'impression, quand on regarde la télévision, qu'on est un peu matraqué par la publicité, qu'on en a marre, alors on zappe, ou ce genre de choses. Est-ce que vous ressentez un petit peu cet effet négatif, ou pas tellement ?
En tout cas, ce qui est vrai pour le rapport de recettes médias traditionnels versus médias traditionnels sur le web, il est vrai aussi de l'audiovisuel. Le gros des recettes publicitaires aujourd'hui de la RTS se fait en broadcast et des médias privés pareillement. La RTS est particulière parce qu'elle a beaucoup de restrictions pour faire de la publicité sur Internet, donc c'est difficile de faire le calcul avec ça. Mais quand vous regardez une chaîne comme la télé, par exemple, qui pourrait faire de la publicité sur le web, elle en fait quasiment pas. Ou si elle en fait, c'est vraiment anecdotique et c'est pas du tout une grosse part de son chiffre d'affaires. Donc là, c'est vraiment identique que pour, enfin, c'est la même situation que pour le print, effectivement. Ensuite, l'idée que c'est plus compliqué de faire de la publicité avec de l'audiovisuel, je ne sais pas. Le contenu brandé ou le native advertising, ou, c'est quelque chose qui a toujours été vu comme sale. C'est ce qu'on appelait le publi-reportage. Ce n'est vraiment pas nouveau. Et aujourd'hui, quand 20 minutes relance le publi-reportage, mais appelle ça le native advertising, ça pose les mêmes problèmes, même si ça enthousiasme beaucoup les commerciaux. Quand on lit un article de 20 minutes qui est dans la même police que l'article éditorialisé, mais que en fait, c'est de la publicité, puis qu'on s'en rend compte à la fin, ou quand on est sur l'app de 20 minutes, puis que comme un autre article, on a une espèce de truc coquin rencontre coquine, c'est un exemple que j'ai vu tout à l'heure, et qu'en fait, c'est de la pub ou une espèce de faux site de rencontre. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas dans une nouvelle manière de faire de la publicité. Là, on recycle le vieux publi-reportage qui ne fonctionne pas. Et on a beau avoir trouvé un mot anglais pour parler du publi-reportage, ça reste dévalorisant pour le titre, ça reste dévalorisant pour la publicité, et ce n'est pas une bonne solution, que ce soit de l'audiovisuel ou de la presse écrite.
Alors, est-ce que recycler effectivement ce vieux modèle, ce n'est pas une preuve qu'on ne sait pas vraiment quoi faire, en fait ?
Exactement, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, c'est juste.
C'est tout le problème.
Et c'est juste. Et c'est beaucoup plus facile, là, d'avoir un nouveau média et de se dire, bon, ben, on se lâche, que d'avoir une espèce de ben, on s'appelle média de référence. Ce n'est pas facile de faire un publi-reportage quand on s'appelle média de référence.
On s'appelle plus média de référence.
Oui, enfin, en tout cas, le temps est encore vu comme média de référence. Et c'est compliqué. C'est quand même moins le cas de 20 minutes. Mais c'est difficile avec une marque et avec une réputation de sérieux et d'avoir tout misé là-dessus. De dire on va faire un publi-reportage, c'est pas évident.
Et donc, sur Internet aussi, il y a une chose un petit peu émergente, bon, qui est maintenant assez démocratisée, les bloqueurs de publicité. Est-ce que vous considérez que ça vous fait du mal sur Internet ?
Oui, oui, forcément, ça nous fait du mal. Ce qui est le plus important, c'est notre base de lecteurs. Hein. C'est les revenus à terme qui vont être les plus intéressants, c'est les lecteurs. C'est pas la publicité, comme je disais, qui va continuer à baisser. Donc nous, notre stratégie vraiment, c'est de dire comment on sert au mieux les lecteurs, comment on fait des thèmes qui les intéressent, comment on fait notre part service public. c'est-à-dire de thématiques qui ne sont pas forcément les plus sexy, mais qui rentrent dans la composition de ce qu'est être un média généraliste comme nous, qui se veut de qualité. Hein. Si vous regardez le temps, que ce soit le print ou le web, en fait, vous allez voir énormément de sujets qui ne vont pas forcément vous intéresser, mais qui sont là aussi comme des choses qui vont créditer les contenus qu'il y a autour. Hein, et c'est très important. Mais nous, c'est clair que tout ce qui est publicitaire, on sait que Facebook, demain, l'a déjà fait plusieurs fois, peut changer son algorithme et fait que si vous aviez tout basé sur le reach, sur votre site internet, et que ben, tout à coup, il y a beaucoup moins d'internautes qui viennent sur votre site, ça va être difficile. On sait qu'il y a la technologie, que ce soit Adblocker ou d'autres, qui peut du jour au lendemain se casser la figure. Donc pour nous, la valeur sûre, c'est le lecteur. C'est bien servir ce lecteur. Et si on fait un parallèle avec d'autres choses, je pense que les gens de plus en plus ont envie de manger local. Ils ont envie d'aller chez un barista plutôt que de bouffer d'une espresso, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je pense que pour les nouvelles, ça sera la même chose. C'est-à-dire que vous allez sûrement de plus en plus préférer ben, soit des médias très thématiques parce que vous vous intéressez à tel ou tel thème, soit quand vous êtes dans de la presse qui vous intéresse directement comme citoyen ou comme consommateur, ben, une presse dont vous êtes relativement proche, que ce soit géographiquement, que ce soit dans les valeurs, dont vous pouvez rencontrer le rédacteur en chef lors d'une séance publique comme ici. Puis ça, je pense que ça a une valeur qui va devenir de plus en plus importante. Je pense que innover, parfois, c'est revenir à des vieux trucs. Si on fait, nous, de plus en plus d'événements avec les lecteurs pour des rencontres physiques, c'est aussi parce qu'on croit énormément à la technologie, mais on sait qu'à un moment donné, la technologie, elle crée une monstre distance, et que nous, on ne veut surtout pas ça. On veut être vu ni comme snob, ni comme loin de nos lecteurs, mais au contraire, on est vraiment une rédaction qu'on appelle ouverte, c'est-à-dire qu'on a constamment des visites, des gens qui viennent assister au briefing, et qu'on doit aussi montrer comment on travaille.
Juste ouais, pour rebondir par rapport à cette question de la publicité versus nouveau modèle économique, et je voudrais prolonger, parce qu'il me semble que dans toutes les... Tous ces modèles extrêmement divers, modèles business models dont aucun n'a encore vraiment fait ses preuves, ou juste quelques-uns, j'ai l'impression quand même dans ceux qui émergent, il y a une tendance assez forte qui est celle de ce rapport au lecteur et à la notion de communauté. Et si on regarde un média, par exemple en France, le seul média qui fait figure de modèle, c'est Mediapart. Donc certes, Mediapart, c'est un créneau très particulier, c'est l'enquête d'investigation, etc. Mais ce qu'ils ont développé aussi, c'est une communauté très forte. Ils ont une partie sur Mediapart qui s'appelle le club. Et c'est vraiment quand vous vous abonnez à Mediapart, c'est vous adhérez aussi à toute une conception du journalisme, à une marque média, enfin, etc. Et ce qu'ont peut-être un peu trop favorisé les plateformes comme Facebook et d'autres, c'est un peu un délitement de ces marques. C'est-à-dire qu'on consomme un petit bout de ci, un petit bout de ça, sans forcément savoir d'ailleurs si c'était un article du Temps ou un article d'un autre média. Et aujourd'hui, ce que les médias essayent de faire, c'est vraiment de se recentrer sur eux-mêmes, de faire valoir leur valeur ajoutée. Et un média comme le Guardian, qui pendant très longtemps a été parti sur un modèle gratuit, aujourd'hui arrive sur ce modèle un peu de club, et c'est vraiment, alors je ne sais plus quel est leur slogan, mais c'est enfin, supportez-nous, donnez ce que vous voulez, il n'y a pas de prix établi, et c'est vraiment cette adhésion aux valeurs du média qui sont mises en avant.
Mais on en parlait également, c'était un petit peu, selon vous, donc l'erreur de ces médias qui sont partis à l'assaut des réseaux sociaux quand tout ça est arrivé et s'est démocratisé, et qui sont maintenant aujourd'hui enfin, en train de faire marche arrière presque, puisqu'ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas forcément comme ils avaient envie.
Pour moi, la grande erreur qu'ont fait tous les médias, y compris la RTS, c'est de vouloir adapter des contenus et de faire du pur Facebook tout à coup et de faire vraiment n'importe quoi et d'aller vraiment chercher le clic, de faire des articles putaclic quand on est un média vu comme sérieux au vu de service public, c'était une énorme erreur. Et ils n'ont pas vu cette erreur-là, puisque dans un premier temps, ça a été récompensé par plus de vues que la moyenne, par plus de likes que la moyenne. Donc il y a un enthousiasme autour de cette nouvelle manière de créer du contenu. Et du coup, on s'est dit, on va faire plus que du contenu comme ça et on s'est un peu perdu là-dedans. Et ça, je crois vraiment qu'on est en train d'en revenir. Et aujourd'hui, quand il y a des discussions, par exemple à la RTS, sur qu'est-ce qu'on met sur Internet, on se dit, ce qu'on met sur Internet, ça doit être de service public. Le reste, c'est déjà sur Internet et on ne veut plus le faire. Et le contenu de service public, ce n'est pas celui qui aura le plus de likes, le plus de partages et le plus de vues, mais ça ne peut pas être le seul indicateur. Et donc ça, je crois vraiment qu'il y a une marche arrière.
Ouais. C'est un peu l'histoire du buzz, en fait, et des auteurs rémunérés au clic, en fait.
Oui, par exemple, oui.
Enfin, c'est un exemple.
On ne peut pas imaginer dans un média de service public avoir un auteur rémunéré au clic, même si c'est un business model pour d'autres choses. Et d'imaginer qu'il faut régater avec Combini et faire le même nombre de clics que Combini et utiliser les mêmes techniques que Combini quand on est la RTS, c'est faire une erreur. Et on s'en est rendu compte.
C'est un peu la même approche pour vous ?
Nous, ce qu'on, et c'est une des choses qu'on a remarqué quand on, avant qu'on se lance, c'est que il y a eu une grosse crise identitaire des médias plus traditionnels, qui sont partis à l'assaut de Facebook et qui ont complètement perdu et dévalorisé leur marque. Mais ça, c'est la même chose des annonceurs aussi qui se sont lancés à vouloir faire de la pub à tout va sur Facebook, sur YouTube, avec des messages qui n'étaient pas du tout pertinents. Les médias ont fait exactement la même chose. Moi, j'ai donné une conférence sur ça il y a un an, parce que ce qui m'inquiétait le plus, c'est de se dire, mais en fait, la plupart de ces médias sont en train de se tuer eux-mêmes parce qu'ils dévalorisent leur marque. Ils sont en train d'essayer d'aller chercher exactement le clic, le buzz, et puis on ne sait plus la Tribune de Genève, pourquoi elle existe, le Matin, pourquoi il existe, parce qu'ils sont partis là-dedans. Et puis je pense qu'il faut revenir et puis clairement dire, nous sommes un média qui faisons ça, pourquoi on le fait, vers quelle audience, et puis avoir aussi les couilles de garder sa vision, et puis de, même s'il y a plein de choses qui se passent à gauche, à droite, de savoir, et puis garder son cap sur des valeurs qui sont propres.
Il y a une référence que j'aime bien utiliser et qui je trouve est très parlante, c'est l'histoire du quinquagénaire qui va en boîte de nuit, et qui tout à coup veut faire jeune, cool, et qui est persuadé d'être jeune et cool parce que tout le monde le regarde, et en fait il ne se rend pas compte que tout le monde le regarde parce qu'il est pathétique. Et parfois, le média traditionnel qui va sur Facebook, c'est le quinquagénaire en boîte de nuit.
C'est une bonne analogie, oui, en effet.
Oui, là, vous êtes très dur avec les médias traditionnels, je ne me sens pas visé. Hein. je défends plutôt mes confrères, mais simplement...
Pas quinquagénaire encore.
Pas encore. Mais il faut voir aussi qu'ils ont mis un temps fou à aller sur Facebook. Et là, il y avait quand même un problème. C'est-à-dire, oui, il ne faut pas dire n'importe quoi sur Facebook, mais il faut être sur Facebook. Et il y a quand même 2-3 ans, je dirais par là, la plupart des médias ici en Suisse romande n'étaient pas ou quasiment pas présents sur les réseaux sociaux. Et ça a été une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils ont laissé ça aux stagiaires d'été. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit qui je suis, comme tu le disais très bien, hein, qui je suis quand je suis la Tribune de Genève et le Matin, et quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que je veux transmettre comme style de journalisme. Et évidemment, ça va être ce que je vais dire sur les réseaux sociaux. Ils ont simplement laissé un gars ou une fille qui était là et qui était un peu plus alerte qu'eux sur ces outils-là. Et ils y sont allés un peu n'importe comment. Mais heureusement, ils y sont allés. Moi, sincèrement, j'étais chez Tamedia avant, et il y a 5 ans, je peux vous dire que je pétais les plombs parce que juste nos boss avaient aucune idée de quoi on leur parlait quand on leur parlait de Facebook. Donc, alors oui, ils y sont mal allés, mais enfin, ils y sont allés quand même. Hein. Franchement, le nombre d'éditeurs qui maintenant seulement s'y mettent, et puis c'est terrible parce qu'après, quand vous avez les convertis de la dernière heure, maintenant ils voudraient tous qu'on fasse des stratégies à la Google, à la Facebook et tout ça, juste au moment typiquement où c'est en train de se casser la gueule et puis que le public on veut plus. Et évidemment, maintenant la classe d'âge, là je sais pas, mais la semaine dernière on donnait un cours sur les fake news à des gymnasiens. On a demandé aux 150 gymnasiens qui étaient là, qui est sur Facebook ? Personne n'était sur Facebook. Quoi. Qui est sur Twitter ? Personne n'est sur Twitter. Ils étaient tous sur Snapchat. Quoi. Nous, typiquement, le temps, on ne sait pas quoi dire encore sur Snapchat. Donc, on n'y est pas, on n'est pas pressé. On ira si on a un truc à dire. Pour l'instant, on n'a rien à dire. Mais voilà, c'est très difficile aussi. Des fois, vous avez des propriétaires qui sont en retard. Après, ils voient qu'ils sont en retard. Donc, ils mettent les gaz et puis ils veulent aller beaucoup plus vite. Pour l'image, c'est le quinquagénaire qui est peut-être sur le parking, qui attend de rentrer dans la boîte. Mais alors, quand il y est, il se déchaîne. Quoi.
Alors, ils mettent les gaz, notamment en plus à un moment où, c'est tout récent, Facebook vient de changer son algorithme, donc ils justifient en disant qu'ils veulent repartir un petit peu plus vers leur concept de base, de mettre en avant davantage les contenus des amis plutôt que les contenus des pages et du divertissement, etc. Et finalement, c'est ce qu'on disait également au téléphone, Jonas, maintenant l'information aussi, elle est punie par l'algorithme Facebook, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins affichée, ou du moins, pour qu'elle soit affichée, il faut payer. Donc c'est un petit peu la nouvelle machine Afrique entre guillemets de Facebook, on en avait parlé. Et donc ça, finalement, pour tous ces médias qui sont partis à l'assaut des réseaux sociaux, c'est aussi un énorme problème finalement.
Bah oui, gentiment, un média pour être. Jusque-là, le débat c'était est-ce que vraiment on peut donner tout ce contenu à Facebook ? On crée du contenu, est-ce qu'on peut le donner à Facebook et laisser Facebook faire du bénéfice avec notre contenu ? Est-ce qu'on n'est pas dans un mauvais rapport ? Et puis avec ces nouvelles règles d'algorithme, on en est à est-ce qu'il faudrait payer pour que notre contenu, est-ce qu'il faudrait payer Facebook pour que Facebook puisse ensuite faire de l'argent avec notre contenu pour être visible sur Facebook ? Parce que c'est vrai que jusque maintenant, quand on faisait de la publicité, typiquement on mettait une date ou une heure ou un lieu dans un post Facebook, Facebook voyait que c'était de la publicité et l'algorithme de Facebook le punissait. Il faut payer pour qu'il soit vraiment vu par votre votre communauté. Et aujourd'hui, l'algorithme de Facebook détecte si c'est du contenu de média, donc même pas de la publicité, de la pure info, et le punit, avec peut-être l'objectif que le propriétaire de médias se mette à payer pour être visible. C'est pas impossible. Et ça, alors là, tout à coup, le business model qui permettrait à un média de payer Facebook pour être visible et toucher, c'est impossible. Mm-hmm. Imaginez qu'on paye les abonnés pour qu'ils lisent le temps. D'un coup, ça, le business model est à repenser différemment. Là.
Ça devient du business to business, alors qu'en fait, vous préférez une dynamique business to consumer, en fait. C'est ce que vous disiez.
La distribution Facebook, hein, quand moi je suis arrivé au temps en janvier 2015... Donc jusqu'en décembre 2014, les journalistes avaient interdiction de tweeter du temps et la page Facebook avait 300 amis. Et je peux vous dire que c'est un problème. Donc je veux bien dire que maintenant Facebook, c'est plein de problèmes, ils changent l'algorithme constamment et tout ça, mais il fallait quand même aussi que nous, on y soit, on fasse partie de ce jeu-là.
Oui, bien sûr.
On n'avait pas de blogueurs, on n'avait pas de réseaux sociaux. Donc si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la classe d'âge des 15-35 à 2/3, ils s'informent uniquement sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez faire le choix très drastique de dire je ne vais pas sur les réseaux sociaux et je me coupe complètement d'une partie de mon lectorat potentiel. Nous, je pense qu'on, comme médias, comme journalistes, on a deux enjeux. C'est gagner notre vie d'une manière ou d'une autre, et on en parle depuis un moment. Et l'autre, c'est de parler aux jeunes, c'est de vous parler à vous. Donc peut-être qu'on s'y prend parfois très mal quand on va sur les réseaux sociaux. Nous, on doit faire à peu près 70-80 papiers par jour. On va mettre 10% de ça sur Facebook. Hein. Donc vraiment, on a une stratégie Facebook et pas de tout disséminer, de mettre tout n'importe comment. Sur notre site, il y a très peu d'agences de presse aussi, par exemple. Donc on a une stratégie assez claire de ce qu'on fait. Mais simplement, il faut quand même aller au contact. Et je pense que de dire les réseaux sociaux, c'est la gabegie, on peut le dire maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de scandales, mais les mêmes le disaient il y a 5 ans en disant les réseaux sociaux c'est n'importe quoi, c'est futile. Ouais, mais si ton public est sur les réseaux sociaux, mon gars, vas-y quoi. 2 milliards d'utilisateurs, je veux bien m'en passer. Mais de toute façon, Facebook c'est un réseau de vieux, donc tous les copains banquiers sont sur Facebook. Donc j'ai quand même intérêt à y aller d'une manière ou d'une autre. Après, effectivement, comme dit Jonas, il faut y aller de manière intelligente, pas trop donner. Nous, notre site est payant depuis 2011. Hein, ça a été un des premiers sites en Europe. Disons, de sites d'infos de qualité qui a eu la vista à ce moment-là de faire du contenu payant. Et c'est vrai que nous, on a une croissance de 20% d'abonnés payants pur numérique depuis 2 ans, parce que ça paye. C'est-à-dire que si vous faites bien votre boulot, comme disait Nathalie, si vous êtes plutôt dans une ambiance de communauté, les gens se retrouvent dans les papiers que vous faites, dans les valeurs que vous défendez, ben, ça ne peut que grandir. Mais simplement, il faut prendre un peu le temps, quoi.
Et alors, est-ce que ça, les natifs numériques, justement, est-ce que, par exemple, ça vous marque, est-ce que vos étudiants sont vraiment, rentrent vraiment dans cette case-là, ou au contraire, ils se sentent quand même plus proches des médias traditionnels pardon.
Alors, nos étudiants, c'est assez particulier, parce qu'effectivement, ils sont dans la classe d'âge des digital natives, même si ça, c'est un terme, je pense qu'on pourrait discuter. Et en même temps, ils se projettent futurs journalistes, et là, pour eux, j'ai l'impression que parfois ça fait un peu un hiatus, une difficulté à gérer. C'est-à-dire qu'ils consomment des médias, enfin, ou des formats très différents, des choses qui sont plutôt rigolotes, plus légères, etc. Des façons de raconter aussi des histoires différentes, portées par, je sais pas, des youtubeurs, etc. Et dès qu'on leur dit, bah, essayez de vous saisir de tout ça et puis d'en faire quelque chose de pertinent en tant que journaliste, bah, c'est finalement quelque chose qui n'est pas si évident à faire. Je crois qu'il, voilà, on peut avoir tendance à rester un peu dans des schémas traditionnels. Mais évidemment, enfin, moi, je suis persuadée que c'est cette génération-là qui a ces pratiques-là depuis qu'ils ont été mis devant des écrans, notamment devant les écrans de smartphone qui... Enfin, je pense que le mobile, c'est sans doute aussi le prochain défi des médias en termes d'invention, là aussi, d'écriture, de format,
etc. Ça l'est même déjà, je pense.
Pardon ?
Ça l'est même déjà, très certainement.
Oui, ça l'est déjà. Enfin, le smartphone, c'est l'écran principal pour accéder à l'info. Ouais. Ça, c'est certain. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est un peu une réplication des contenus du web sur l'écran du mobile, alors qu'en fait, on sait que les usages sont complètement différents. Mmh. Voilà, on n'attend pas du tout la même chose en termes de temps d'usage, en termes de longueur, de format, du moment de la journée auquel on va consulter son info sur son smartphone. Et donc là, je pense qu'il y a tout un champ de développement à venir. Mais forcément que la jeune génération, parce qu'elle l'a, et voilà, vous tous, c'est la même chose, ces pratiques-là qui sont de plus en plus... ouais, native, bah, je pense que ça permettra effectivement mélanger à une pratique journalistique, à une éthique, à, enfin voilà, tous ces fondamentaux du journalisme, ça peut faire des choses vraiment intéressantes.
Et pour autant, on se rend compte finalement que, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on parle de toute cette transformation digitale, le papier, c'est finalement pas si dépassé que ça. Vous m'aviez dit par exemple aussi un chiffre qui m'avait marqué, c'est que 70% des abonnés au Temps, par exemple, n'ont jamais mis les pieds sur leurs accès numériques. Oui.
70% des abonnés print donc sont d'office abonnés numériques. Tous les abonnés print sont d'office abonnés numériques et 70% d'entre eux, effectivement, n'ont jamais activé leur code sur le web. On a un lectorat qui est âgé, hein, pour une certaine partie, qui est très jeune pour d'autres. Donc le papier, ben, sincèrement, il a encore une réalité, hein, c'est-à-dire que la capacité que vous avez de vous informer en feuilletant un journal est très rapide, c'est beaucoup plus rapide que de scroller un écran. Quand vous regardez une page, vous êtes très très vite informé avec le titre, la photo, la légende, les intertitres, beaucoup plus vite que ce que vous pouvez là encore faire en scrollant un écran, donc il y a une utilité fonctionnelle. Après, ben, c'est beau, il y a la mise en page. Depuis le début de l'histoire du journal, on vend 3 à 4 fois plus d'éditions le week-end parce que le week-end on a le temps, on s'étale. Ce qu'on voit bien évidemment, c'est que le papier c'est compliqué la semaine, hein. On n'a pas beaucoup de plaisir à étaler un grand quotidien dans le métro ou dans le bus, donc ça c'est un petit peu plus compliqué. Mais non, mais le papier, ben oui, c'est un peu comme tous les médias qui sont venus les uns après les autres, hein. La radio n'a pas tué le journal, la télé n'a pas tué la radio, et ainsi de suite, quoi. Donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Après, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que les nouvelles générations arrivent à apporter parfois certaines nouvelles fonctionnalités. C'est Mathieu Jaton du Montreux Jazz Festival qui me disait en fait que lui, il pensait que, enfin, il avait analysé ça, que le retour du vinyle, notamment, s'il y avait plusieurs catégories de personnes qui aimaient le vinyle, il y avait les vieux comme nous qui retrouvions une sorte de chaleur du son, de tradition, de choses qu'on avait connues, mais il y avait aussi les jeunes en fait qui achetaient des vinyles pour les mettre dans leur bibliothèque et de montrer qu'ils étaient cool et qu'ils avaient une culture.
Peut-être, oui.
Ouais, comme nous on mettait des livres, eux ils mettent des vinyles, et c'est vrai que nous les vinyles en général on les mettait dans des bacs et ils se voyaient, et on voyait le lot mais on voyait pas. Et ça, je trouvais intéressant. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'était plutôt sa perception à lui. Mais voilà, et après, il y a d'autres perceptions. Il y a un très joli film qui s'appelle « Quand nous étions jeunes », avec Ben Stiller, Naomi Watts et un couple jeune. C'est des quinquas avec un couple de vingtenaires. Et les quinquas sont à fond sur la technologie. Ils ont Netflix, le dernier iPhone et tout ça. Et les vingtenaires, ben, ils n'ont que du mobilier repris dans des puces. Ils ont un grand poster de Rocky à la maison. Ils écoutent des vieux trucs. Et je trouvais ça, le film était assez intéressant. Des fois, les fans de techno, ben, c'est les adolescents qui ont 50 ans en général, quoi. Et parfois, les jeunes, comme le disait Nathalie, ben, aussi, moi, je vois beaucoup de jeunes journalistes qui ne sont pas du tout branchés réseaux sociaux, qui sont venus là vraiment pour faire le métier un peu à l'ancienne. Donc, des fois, c'est difficile de catégoriser les gens comme on le fait au niveau des générations.
Très bien. Et donc, on avait ce matin M. Amédro et cet après-midi M. Campiche qui sont venus faire une interview. Donc, M. Campiche, notamment, était assez pessimiste là-dessus et sur, effectivement, le... Vous le connaissez peut-être, je sais que vous le connaissez. On en a parlé. Et en fait, il avait l'air de dire également que cette transformation digitale et l'arrivée du digital avaient un petit peu tué aussi ce qu'on appelle la presse d'opinion et ce qui était, selon lui, le plus important dans la presse. Est-ce que vous êtes tous plus ou moins d'accord avec ça ?
Franchement, c'est faux. C'est complètement faux, parce que les opinions, il y en a plein dans la presse. Et puis je pense que tout le monde a des opinions, tous les canards font des éditos, tous les youtubeurs ont des opinions sur tout. Je crois qu'on est plutôt, dans un moment où on aimerait plus de faits et moins d'opinions. Donc non, je crois qu'ils ne regardent pas assez les choses et qu'ils ne connaissent pas très bien ça, en fait.
Parce que Capao, typiquement... Vous faites plus de l'informatif que de l'opinion, par exemple. C'est un choix ou c'est juste que
je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, on a envie de revenir de plus en plus aux faits. L'opinion, il y en a partout. Que ça parte d'un blogueur, que ça aille d'un youtubeur, de l'opinion, il y en a vraiment, vraiment partout. Nous c'est un désir. On ne se dit pas être complètement objectif par rapport à tout ce qu'on traite, parce que je pense qu'on est tous des humains et c'est impossible d'être complètement objectif. Par contre, on essaye, nous, de questionner par rapport à des sujets. On sait qu'on est subjectif par rapport à certains trucs, par exemple l'environnement. Je ne pourrais pas rester très objectif personnellement par rapport à l'environnement juste parce que c'est une cause qui est absolument planétaire. Et puis là, ce serait un petit peu difficile d'être complètement objectif. Et puis, on essaye de laisser les personnes qui traitent les sujets chez nous aussi pouvoir exprimer un petit peu leur opinion. Mais tout en, on n'a pas envie d'être dans l'influence. Il faut surtout faire attention de ne pas tomber dans, essayer d'influencer les gens par rapport à quelque chose. Donc, on essaye de rester assez objectif. Mais s'il y a de l'opinion qui transparaît, s'il y a un trait de caractère qui transparaît, je veux dire, on accepte.
Mais c'est pour autant quand même important de garder cet aspect d'opinion dans la presse, selon vous tous.
Dans la presse, mais dans la vie de tous les jours, c'est important d'avoir des opinions.
C'est important de les séparer, surtout, hein, d'établir les faits. On est quand même dans l'époque de la fake news, des faits alternatifs. On a tous fait un peu de science. On sait que 2 plus 2, c'est 4. Ce n'est pas alternativement 2, 4, 5, 12, 42. Quoi. Donc, il faut établir des faits, et puis il faut séparer ça avec de l'opinion. Et puis l'opinion, il y en a franchement plein, et il y a plein de gens qui s'expriment. Et puis après, l'influence, elle est toute relative. Vous savez, la presse était généralement contre l'UDC. Et puis ça fait 20 ans que c'est le parti le plus puissant de Suisse, donc on est très, il faut qu'on soit très humble par rapport à l'influence qu'on peut avoir comme journaliste, comme média. Mais après, surtout, il faut être courageux, il faut donner ses opinions, mais il faut bien les séparer des faits.
Très bien. Oui, c'est un peu de toute façon le cas. Je regarde en France, par exemple, c'est un petit peu la même chose.
Alors c'est très différent parce que vous avez Mélenchon qui vient de créer sa télé, par exemple. Donc il y a une volonté d'une certaine vieille garde, je dirais, de revenir sur des choses qui sont très... les opinions, il n'y a pas assez d'opinions. OK, mais les opinions, on en a eu trop à un moment donné, on en a encore trop. Je pense que d'avoir des journalistes qui font bien leur boulot, c'est d'abord le socle évident pour tous s'entendre, savoir de quoi on parle. Parce que vous imaginez un débat démocratique quand les faits sont complètement vrillés. Quand vous avez un Trump qui vous dit « Non, mais ça ne s'est pas passé comme ça, c'est passé comme ça. » Puis alors que, voilà, c'est... qui retire des budgets à la science, qui dit qu'il n'a pas fait des choses alors que vous avez une vidéo qui n'est pas faite, qui montre qu'il a fait ces choses. Donc il faut déjà qu'on ait des faits, et après on peut discuter comme citoyen pour voter, après on peut choisir comme consommateur ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, quel choix de société, on en parlait sur le développement durable, on veut aller, mais simplement de faire de l'opinion pour l'opinion. Je veux dire, souvent quand même les gens qui essaient de dire que la presse est trop politiquement correcte, c'est ces gens qui malheureusement vrille un petit peu, et puis pour avoir des débats un petit peu différents, invente n'importe quoi, puis on se retrouve avec des gens qui disent des horreurs. Enfin, lisez les observateurs.ch, il y en a plein en Suisse aussi et en France, de tous ces sites patriotes et ainsi de suite de réinformation. Mais sincèrement, on se croirait dans les années 30 parfois.
Ou de désinformation, c'est un petit peu ça. Et quelles sont alors vos convictions à chacun sur l'avenir du journalisme? Est-ce que vous voyez dans 10 ans, 20 ans? Est-ce que aussi le refus de Nobilag vous a un petit peu redonné espoir, entre guillemets, la formulation est un peu osée, mais quelles sont vos convictions sur l'avenir du journalisme, plus clairement? Allez-y, chacun votre tour, comme vous.
Redonner espoir, c'est pas osé, c'est juste. Redonner espoir en quoi précisément? En une espèce de relation entre le citoyen et le journaliste. En fait, on se rend compte que le citoyen considère le journaliste, qui se dit « j'ai besoin du journaliste ». Donc oui, espoir, on a de nouveau espoir, parce qu'on s'est posé la question, c'est vrai, notamment pendant cette campagne de Nobilag, on a de nouveau espoir dans la force qu'il y a entre le citoyen et le journaliste. Et maintenant, on a espoir que le journaliste ne perde pas de vue que c'est pour ça que le citoyen l'attend et l'apprécie. Et c'est pas pour sa capacité de bien rédiger des publics reportages, c'est pas pour sa capacité de faire un maximum de clics sur les réseaux sociaux, c'est pas pour sa capacité de tout digitaliser absolument, c'est pour sa capacité à donner des informations, etc. Et là, on revient à redire ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire revenons à la base de ce que fait le journaliste. Un bon journaliste est un bon journaliste. C'est exactement ça. Et donc, on peut avoir espoir en ça et arrêter de se trahir en permanence au nom de la modernité, de la digitalisation, etc.
Également, dans 10 ans, Kappa, ça ressemble à quoi?
Donc moi je suis très positif par rapport au futur du journalisme et du monde des médias, de part parce que, je veux dire, qu'il y ait Facebook, qu'il y ait YouTube, qu'il y ait Instagram, on s'informait avant, on s'informera après. Ça, il faut pas le nier. Le fait, nous, on le sait, que notre génération est très curieuse de ce qui se passe dans le monde. Ils ont envie d'informations. Ils ont envie peut-être parfois qu'on leur amène différemment, mais c'est pas du tout vrai que les jeunes ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans le monde, bien au contraire, ils sont extrêmement curieux. Et puis aussi, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense que les seules choses sur lesquelles il faut faire assez attention, c'est qu'on remarque que notre relation à l'information parfois peut être un petit peu délicate, et ça c'est quand même un travail de fond éducatif par rapport à comment est-ce qu'on consomme l'information, vraiment à réussir à comprendre quel est un fait, quelle est une opinion, Et ça c'est un travail qui doit être fait, mais moi je suis très positif par rapport à ce qui va se passer, et très positif par rapport à ce qui va se passer pour Kappa aussi dans les 10 prochaines années.
C'est une bonne chose.
On a soufflé nos premières bougies, vous avez soufflé vos 20 ans. Je n'ose même pas imaginer où on sera dans 10-20 ans, ça va être extraordinaire.
Excellent. Alors on va peut-être demander à l'Assemblée s'il y a des questions vis-à-vis de tout ce qu'on vient de dire, pour résumer, finalement, le vrai défi en fait pour l'avenir, ça va être de se débrouiller pour faire tourner la boutique. En fait, c'est vraiment une question aussi de business model, de financement et de comment garder une presse libre et relativement indépendante dans le monde qui arrive. En fait, c'est ça.
Bah, c'est ça. Et puis c'est de pas perdre les nouvelles audiences. Hein. Ça, encore une fois, moi j'étais dans le groupe Edipresse Tamedia quand ont été lancés les gratuits en Suisse. À ce moment-là, je sais plus, c'était il y a 10-15 ans. L'idée, c'était de se dire, les jeunes, notamment les ados, vont avoir un journal en main, et donc, quand ils seront plus grands, ils iront acheter un journal. Eh bien, ça ne s'est pas passé. Donc, c'est vrai que là, on a une rupture un petit peu. Quand nous, on était sur les bancs de l'université, en général, on était fans d'Un Canard, de magazines. Évidemment, ce n'est plus du tout le cas maintenant. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un combat qui est perdu pour l'éternité. Ça peut changer avec la génération qui vient après. Mais il y a vraiment cet enjeu, comme le disait Jonas aussi, d'aller attraper les nouvelles audiences, mais sans se trahir. Quoi. Ça, c'est un énorme enjeu quand même.
Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Je vais éventuellement faire passer un nouveau micro. Je suis désolé, on pourrait switcher comme ça. Alors, je vois Mila là-bas. J'arrive.
Bonsoir. Merci pour vos interventions. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'a dit le CEO de Kappao, qui m'a marqué et qui a suscité un questionnement. Donc, vous avez dit que le métier de journaliste ne change pas, notre rôle, c'est de raconter. Mais je me demande si finalement, avec toute cette évolution, avec tous ces questionnements d'un point de vue business model pour les médias, Stéphane Benoît Godet a parlé de membres de clubs, mise en parallèle avec tous ces réseaux sociaux, ces interactions entre les lecteurs, les internautes. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que le rôle même du journaliste est amené à changer ? C'est-à-dire que le journaliste ne serait plus quelqu'un qui va, comme vous le dites, raconter, mais que son rôle ne serait pas au final de mettre les gens en contact, de mettre les opinions en contact aussi, à la lumière, et que finalement le journaliste deviendrait en quelque sorte un modérateur des opinions.
Alors je pense que ça peut être une des parties de son métier, de vraiment interagir avec la communauté et avec les internautes, mais je pense qu'il y a quand même le travail avant qui reste extrêmement, extrêmement important. Donc ça peut être une des sous-catégories de son métier, de vraiment interagir avec son audience et puis de participer, de faire susciter aussi des opinions au sein des lecteurs. Mais je pense qu'il doit quand même encore raconter ses histoires, et mettre en avant des faits. Non, je pense que ça ne doit absolument pas changer. Et nous, on est bien placés pour le savoir. On s'est lancé dans cette aventure avec zéro journaliste dans la rédaction. C'était quelque chose qu'on nous disait quand on était venu à l'AGM. Mais aujourd'hui, on peut lancer un média sans journaliste. Et puis, on remarque tout simplement qu'on l'a fait parce qu'on n'avait pas de journaliste avec nous. Mais aujourd'hui, on a recruté deux journalistes aujourd'hui qui commencent la semaine prochaine parce qu'on voit l'importance de ce métier.
D'autres opinions, éventuellement, sur la question ? Allez-y.
Merci, oui.
Juste sur les narrations, vous avez totalement raison, en tout cas en partie, hein, dans cette salle, ici on fait le Forum des 100 que faisait l'Hebdo et que Le Temps fait maintenant. Là on est vraiment, pour nous c'est typiquement la transformation des narrations. Hein, on fait un journal, on fait un site, à un moment donné on fait des événements. L'événement c'est la même chose, vous décidez du thème, vous décidez des invités qui vont être là et après vous faites effectivement de la mise en relation quand vous faites du networking, la partie où les gens prennent le café pendant le Forum des 100 et pendant tous les événements qu'on fait. Donc on a cette fonction sociale, les journalistes, et souvent on l'a oublié, on se les fait shipper par les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a pendant très longtemps dans la presse traditionnelle, ce qui marchait le mieux, c'était la page des morts, la page météo et la page du courrier des lecteurs. Et ça, quelque part, c'est des trucs que vous trouvez maintenant sur les réseaux sociaux. On a cette fonction, bien sûr, de journalisme, hein, bien sûr, d'établir les faits, mais on a vraiment une fonction sociale et qu'on oublie parfois. Et ça, c'est très important. Après, juste aussi une incise, mais la semaine dernière, on a, pour fêter les 20 ans du journal, on a fait un spectacle de journalisme. On a mis des journalistes sur scène et ils ont raconté les papiers. On avait des gens qui étaient en larmes dans l'Assemblée. Et des gens qui sont venus vers nous, notamment des jeunes générations, en nous disant « j'ai compris ce qu'était votre métier grâce à cette soirée ». Donc on doit toujours inventer une nouvelle narration et elles ne sont pas forcément technologiques. Donc ça, on doit toujours aller au contact. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire dans ces domaines-là. Et Live Magazine, c'est le nom de cette opération. Si ça passe près de chez vous et ce ne sera pas forcément fait par nous, franchement, je vous le conseille, si vous vous intéressez aux journalistes, c'est vraiment une jolie expérience.
Peut-être juste un point aussi, un petit peu dans la même lignée. Je discutais récemment avec le rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Nice Matin, qui est un média français, qui n'est pas en très grande forme nécessairement, mais qui sur le numérique fait des choses assez intéressantes, notamment ce qu'ils appellent du journalisme de solution, donc qui est cette idée justement d'aller créer une communauté, de répondre aux demandes des lecteurs, de sujets à traiter. Ils font voter leurs sujets chaque semaine. Ils ont vraiment une interaction très très forte. Ils utilisent par exemple Facebook, non pas seulement pour diffuser leurs articles, mais aussi pour créer des groupes fermés dans lesquels ils interagissent avec leurs lecteurs. Et il me disait, moi, quand je recrute des journalistes, donc vraiment avec des profils de journalistes, formation de journalisme ou expérience, voilà, il me disait, j'ai trois questions. Je leur pose trois questions. La première, c'est est-ce que tu serais prêt à animer un débat sur, par exemple, un article, un sujet d'un article que tu as fait. Deux, est-ce que tu serais prêt à interagir sur les réseaux sociaux avec tes lecteurs, à répondre à leurs questions, etc. Et la troisième, c'est est-ce que tu serais même prêt à ce que des lecteurs te demandent de traiter tel sujet, ce qui est quelque chose d'assez qui peut être enfin, assez violent aussi pour des journalistes, hein, dans l'idée que c'est le journaliste qui fait aussi le choix de la hiérarchisation, des sélections des sujets. Enfin, voilà. Et dès qu'ils répondent non à une des trois, ben, c'est fini. Donc on voit qu'il y a effectivement cette fonction sociale, elle a toujours existé, mais il y a aussi certains médias qui vont un peu plus accentuer cet aspect-là plutôt que l'aspect beaucoup plus factuel, recherche d'informations, vérification. Enfin, voilà. C'est des modèles un peu différents qui émergent.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Madame. Merci beaucoup. Moi, j'avais plus une question par rapport à Facebook et puis aussi Google, où on voit quand même qu'il y a un intérêt par rapport au journalisme de proximité. On a vu qu'ils ont commencé à mettre en place des outils pour permettre à la communauté de poster des articles, etc. Moi, c'était un peu à voir quel est votre sentiment par rapport à cette incursion des plateformes dans le milieu journalistique et plus particulièrement sur le journalisme local, qui est quand même une des forces et on va dire un des derniers bastions forts des médias classiques.
Ils essayent sur tous les marchés hein, d'intervenir. Alors à la fois, ils ont notamment Google, ils ont une bourse, on a bénéficié de cette bourse hein, pour un algorithme qu'on a développé au sein de la rédaction. Donc ils ont un jeu comme ça, ils nous ont piqué tout le marché quelque part et de temps en temps, ils nous rendent un peu quelque chose ou ils nous enlèvent encore quelque chose. On les observe beaucoup, on les connaît, on va les voir. Je crois que l'important, c'est vraiment de bien les connaître aussi, ces boîtes, à la fois leurs représentants ici en Europe et aussi aux États-Unis, de voir un peu vers où ils vont. Sur l'histoire du journalisme local, il y a beaucoup d'initiatives, il y a eu des initiatives d'un point de vue commercial, comme du point de vue journalistique. Pour l'instant, ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas hyper inquiet, sincèrement. C'est un peu de l'ordre d'activation de blogs, des choses comme ça. Des blogueurs, il y en a plein, il y en a qui font un travail formidable, d'autres qui sont plus problématiques. Je pense que quand on est une marque de médias comme la nôtre, si on est suffisamment innovant, on va continuer à grandir et puis on va se préserver de ce genre de choses. Après, moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient une image actuellement tellement sympathique qui veut qu'un acteur très local ait envie de s'associer avec la casquette Facebook ou Google pour dire qu'il est en train de faire du journalisme local. Je pense que cette bataille-là, ils l'ont perdue. Ça peut revenir, hein, mais je pense que là, sincèrement, ils l'ont perdue.
Autre question ? Non. Bon, mais ça me l'air tout bon. Il ne me reste plus du coup qu'à vous remercier infiniment pour être venu partager votre expérience et vos convictions sur le sujet. Et donc j'espère que vous avez un petit peu compris davantage ce que c'est vraiment que la transformation digitale, qu'est-ce que ça va impliquer dans l'avenir pour les médias notamment. Je voulais remercier quand même particulièrement toute l'équipe de l'association, qui ont fourni un travail extraordinaire pour cette journée, à aider à préparer cette conférence et tous les événements qu'il y a eu dans la journée. Merci les gars, vous avez été au top. Et évidemment l'Université de Lausanne pour tous les moyens mis à disposition, l'AGFI ainsi que nos autres partenaires qui nous auront bien aidés. Je vous invite maintenant à aller à l'Amphipôle, c'est juste à côté par là-bas, pour déguster un petit apéritif qu'on vous a préparé avec les petites spécialités de nos régions, d'où qu'on vient, comme on dit. Et merci à tous d'être venus, et j'espère à l'année prochaine pour l'édition numéro 2 du Focus.